Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 27 octobre 1994.
Je vais poser à la fin du dernier cours une question qui serait importante à bien préciser. Alors, elle est reprise ici. La distinction entre instinct et appétit naturel ne relève-t-elle pas de deux regards bien différents? Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui m'aurait intéressé, c'est savoir à quel moment il y a eu ça. C'est une question un peu historique, si vous voulez. Parce que c'est toujours intéressant de voir à quel moment se fait le glissement du passage de l'appétit naturel à l'instinct. C'est sûr, ça relève actuellement de deux regards différents. L'un restant dans l'immanence des opérations vitales. L'instinct, qui serait un regard psychologique, c'est sûr. C'est les psychologues qui, de fait, se sont mis à parler de l'instinct. Mais aujourd'hui, c'est le langage courant de tout le monde. Oui. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est intéressant de voir à quel moment le point de vue de l'appétit naturel, qui est un terme philosophique, grec, moyenâgeux, thomiste, mais pas seulement thomiste, tous des théologiens. L'autre a l'appétit naturel portant sur la finalité, regard philosophique ou théologique, c'est sûr. C'est dans une vision de sagesse qu'on parle de l'appétit naturel. Là, vous voyez tout de suite la différence. C'est qu'on parle de l'instinct sexuel. Et Aristote parle de l'instinct de procréation. De l'appétit naturel de procréation, pas de l'instinct. Vous perdez l'appétit. Je me demande. un monde qui détruit progressivement nos sensations. Tous ces quantités de maladies aujourd'hui, on ne veut plus manger. On ne peut plus dormir. C'est la maladie classique, on ne dort plus. Et tout ça vient, ça. Il y a quand même quelque chose. Le sommeil, c'est l'appétit de se reposer, c'est un appétit naturel. On travaille, je peux tout à l'heure, et puis sinon, mais je peux plus maintenant, faut que je me repose. Vous voyez, la philosophie du vivant doit nous rendre attentifs à ça. D'où la méthode Vitose. La méthode Vitose est née là. Vitose a compris que de fait, on télescopait nos sens externes. Et alors petit à petit, quand on les télescope, ils perdent leur fonction. Vous avez dit, s'il n'y avait que la vie végétative, on ne pourrait pas parler d'un homme vivant seul. Est-ce que toute vie spirituelle humaine permet le dépassement de l'exigence de la procréation? Recherche de la vie, amour de l'amitié, et quelqu'un qui donne sa vie pour une œuvre humaine, et la contemplation en éthique religieuse. C'est très très délicat, cette question-là. C'est une question intéressante. Oui, c'est une question d'éthique. C'est pas une question de philosophie du vivant. Mais c'est une question d'éthique. À quel moment l'homme a-t-il le droit de dire « je ne me marie pas » ou « s'il est marié, je ne veux pas avoir d'enfant » ? À quel moment a-t-il le droit? Pour quelle finalité a-t-il le droit? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Étant donné que c'est une finalité de la vie végétative, mais c'est une finalité humaine tout court. C'est la finalité du mariage. Il faut bien réfléchir, hein. C'est pas la seule, la première finalité du mariage, c'est l'amour des conjoints. C'est l'amour des conjoints qui est la première finalité. Avoir des enfants, c'est une finis effectus. C'est une fin et un effet. Donc ce n'est pas la finalité propre, ça il faut bien le comprendre. Alors, à quel moment, de fait et pour quelle raison, est-ce que la recherche de la vérité suffit? J'ai rencontré des personnes qui m'ont posé la question. Des artistes qui m'ont posé la question. Est-ce que l'art suffit? Hein? C'est intéressant de se poser la question, parce que c'est des questions actuelles, ça. Surtout aujourd'hui, où, au fond, le mariage et la famille sont tellement relativisés. Alors on doit se reposer les questions honnêtement. Je reprends pour que vous compreniez bien. Qu'est-ce qui finalise le mariage? L'amour d'amitié. Mais cet amour d'amitié doit rester ouvert à la question des enfants. Donc ce n'est pas l'amour d'amitié qui suffit à dire « je n'aurai pas d'enfant » pour qu'on puisse s'aimer plus. C'est pas suffisant. Mais si, en raison de telle ou telle difficulté, il n'y a pas d'enfant, il faut comprendre que l'amour d'amitié finalise vraiment l'amour des conjoints. Alors, est-ce que les conjoints ont le droit de dire « nous n'aurons pas d'enfant » ? Vous savez que s'ils le disent avant de recevoir le sacrement de mariage est nul. S'ils le disent après, n'ayant pas pensé, mais pour telle ou telle raison, le sacrement de mariage existe. C'est très intéressant. la recherche de la vérité et la contemplation chrétienne. Alors, est-ce que l'art suffit ? Je crois pas. Je crois pas qu'un artiste puisse dire « Je ne me marierai pas pour mon art ». Est-ce que la recherche des sciences suffit ? C'est pas la recherche de la vérité, hein. La recherche de la vérité, c'est la contemplation. Je ne crois pas. Dans la vie religieuse, c'est poursuivre Jésus. Vends tout ce que tu as. Avoir la dot riche. C'est évident que c'est pas ça qui est béni par le mariage. Il peut y avoir à ce moment-là nullité du mariage. Parce que la finalité n'est pas respectée. Et le sacrement n'est pas là pour voiler, couvrir toutes les fausses finalités. Ce serait du fidéisme effrayant. Mais il y a des quantités de choses comme ça. Donc, je laisse ça. Faut se poser ces questions-là et petit à petit essayer de voir clair. Ce n'est pas si commode que ça. Il faut pas répondre trop vite à ces questions-là, qui sont des questions frontières. Oui, parce que c'est toujours... En face, il y a un ordre dans les finalités. Donc la contemplation et Dieu, ça c'est facile. Et ça peut exister même au point de vue religieux. Donc indépendamment du point de vue chrétien, dans une éthique religieuse. Mais quand il s'agit uniquement d'un bien temporel, d'une œuvre de miséricorde temporelle, c'est différent. C'est une œuvre temporelle avant ce que représente la famille. Je sens très bien que le Saint-Père le sent très fort, ça. Dans l'année de la famille, c'est une des choses qu'on doit réfléchir. Comme une œuvre temporelle avant la vie religieuse. Faut être net là-dessus. Quelqu'un qui insiste en disant, il y a cette œuvre qui se fonde pour les pauvres. Est-ce que je dois entrer au couvent ou pas? Est-ce que je dois pas? La consécration à Dieu passe devant. C'est évident. Mais au point de vue sociologique, aujourd'hui, au point de vue psychologique, on dira ah non, ça vous épanouira plus. C'est pas la question. La question, c'est savoir quelle est notre finalité. Alors, continuons. Entrer dans cette philosophie du vivant. C'est un rappel que je fais, hein. Un rappel des différents degrés de vie. La vie végétative est fondamentale. La vie végétative a un poids unique parce qu'elle a sa propre finalité qui doit être assumée par le point de vue humain. Parce que je ne peux pas me livrer uniquement à ma vie végétative. Vous comprenez bien? Je suis un homme et non pas un animal. Pour l'animal, la vie végétative finalise. Et c'est la reproduction qui finalise la petite souris. C'est pour ça qu'elles sont tellement petites. Parce que ça fait partie de la finalité de la souris qui n'est dérangée par rien. Si ce n'est quand elle meurt de faim. Mais elles sont astucieuses. Elles trouvent toujours des possibilités. Donc la vie animale est finalisée par la vie végétative. La vie humaine dépasse la vie végétative. Et c'est pour ça que la reproduction ne finalise plus immédiatement la vie humaine. L'amour d'amitié passe avant. Ça, c'est l'aristotélisme pur, ce que Platon n'aurait pas accepté. Et comme aujourd'hui, on vit énormément au niveau Platon, je comprends très bien qu'aujourd'hui, on ne comprend plus. L'amour d'amitié est quelque chose de très grand. Nous l'avons vu. Au-dessus, vous voyez, au-dessus de ce que représente la famille comme telle, la famille. Mais la famille se sert de l'amour d'amitié. La famille implique l'amour d'amitié plus qu'elle se sert. Elle implique. Elle est la réalisation d'une amitié complémentaire, très particulière. Et vie est plus spirituelle que la vie végétative. Elle est plus indépendante à l'égard du monde physique. Et elle a cet avantage particulier qu'elle est sensible. Donc on a une conscience très nette de nos sensations et de nos passions. Et là, l'étude de Thomas d'Aquin sur les passions demeure quelque chose de très unique. Avant et après. Je crois qu'on n'a pas fait mieux que le traité des passions de Saint-Thomas. Et que les traités psychologiques sur les passions, peut-être s'arrêtent à des quantités de détails particuliers, accidentels, mais l'analyse des passions est merveilleuse chez Thomas d'Aquin. Introduite en théologie, donc elle n'est pas philosophique, elle est théologique. Mais c'est facile d'extraire de ce traité de théologie un traité philosophique des passions. Des 11 passions. Le concupiscible et l'irascible. Et les rapports entre le concupiscible et l'irascible sont très importants à bien reconnaître. Le concupiscible est fondamental. Et l'irascible présuppose toujours le concupiscible. Mais l'irascible ajoute quelque chose. Ajoute l'esprit de conquête. L'irascible, c'est le bien difficile à acquérir. Et le concupiscible, c'est le bien qui est là. Sans lutte. Je vais au réfectoire. J'ai devant moi des fruits. C'est pas moi qui les ai cueillis. C'est pas moi qui les ai achetés. Ils sont là. Mon concupiscible n'a qu'à les manger. Et rendre grâce au Seigneur. Le repas est servi aussi. Je n'ai pas été pendant un certain temps pour le faire. Il m'est servi. Alors on remercie ceux qui l'ont fait. Tout en mangeant. Alors, il faut comprendre que notre vie passionnelle du concupiscible et l'irascible demande progressivement d'être consciente. Les passions ne sont pas par elles-mêmes conscientes. Parce que l'imaginaire joue un rôle capital au niveau des passions. Et c'est très difficile dans la vie courante, si on n'est pas très vertueux, de discerner ce qui est vraiment l'aspect passion et l'aspect imaginatif des passions. Parce que dans le concret de la vie, j'allais dire, toutes nos passions sont imprégnées d'imagination. Il faut dépasser la vie passionnelle par le point de vue de l'intelligence, pratique, pour faire le discernement entre l'aspect passionnel et l'aspect imaginatif. Ce sont nos imaginations qui corrompent nos passions et qui mettent dans les passions quelque chose d'infini, un volcan infini. Alors il faut comprendre qu'on peut agir sur l'imaginaire. Par notre volonté. Et notre volonté n'a qu'un pouvoir politique sur l'imaginaire. C'est-à-dire très faible. Je ne peux pas, si je suis très passionné, et très passionné par l'imagination. Parce que j'ai connu des moments très difficiles. Des moments où il y avait impossibilité d'agir. Je suis trouvé devant un mur. Ou à la suite d'un accident. Ou à la suite de très grosses difficultés. Ou à la suite d'ennemis particulièrement farouches. L'imaginaire a augmenté. Et quand l'imaginaire a augmenté, l'imaginaire quitte très difficilement le terrain conquis. très bons médecins. Je dis bien les très bons médecins, Artis. Il s'agit de psychanalystes ou il s'agit d'homéopathes. Ce qui est mieux, parce que les psychanalystes, c'est pas toujours commode. Je connaissais maintenant, ils sont morts. Mais d'excellents psychanalystes qui guérissaient vraiment des imaginations qui partent à la dérive. Ça, j'ai vu. Alors, c'était pas quelque chose, une affirmation, c'était. Et ça, c'est très important de connaître ça dans la vie pour nous et puis pour les autres. Parce que plus on avance, plus l'imaginaire conquiert du terrain. Toute la culture d'aujourd'hui est une culture faite à partir de l'imagination. Le cinéma, la télévision, tout concourt à ça. De ce sorte que l'imaginaire prend possession d'une façon étonnante du terrain humain, du terrain passionnel, du terrain de la des sensations. Alors, on doit être très attentif à ça, parce que il faut bien comprendre que ça ne se guérit pas tout seul. Faut accepter ça. Faut être lucide. On doit être lucide. Connais-toi toi-même. On doit être lucide dans ce domaine-là. Et, voyez, le noviciat est fait pour ça, se connaître en face de Dieu. Parce que dans le monde, on peut arriver à cacher tout ça. Au noviciat, c'est impossible. On est bien obligé de le reconnaître en face de Dieu. Et la philosophie est faite aussi pour nous rendre plus lucides. Et mieux comprendre la part imaginaire. Et je connais des homéopathes qui sont merveilleux. Et qui m'ont, aussi bien quand j'étais en Suisse que maintenant, quand je connais certains homéopathes, ils peuvent agir. Il faut le savoir, on n'a pas le droit. Il faut choisir, parce que l'homéopathie est avant tout un art. L'aspect scientifique est très difficile à préciser. Il existe, mais très difficile à préciser. C'est beaucoup plus un artiste. Et qui a besoin d'une philosophie. Les homéopathes ont besoin de philosophie pour mieux comprendre, mieux saisir la part de l'imagination qui arrive à supprimer l'aspect volontaire et qui met en nous des distractions perpétuelles. On devient girouette, incapable de réfléchir, incapable de creuser à cause de l'imaginaire. L'imaginaire, pas ce qu'on a dit, l'imaginaire c'est la folle du logis, c'est vrai. Parce qu'elle va dans tous les sens. Alors, l'art canalise l'imaginaire. La prière canalise l'imaginaire. L'adoration. La recherche intellectuelle et philosophique canalise l'imaginaire. Mais quand l'imaginaire est très fort, on a besoin d'être aidé, biologiquement parlant, parce que l'imaginaire a un fondement biologique. Et c'est sur ce fondement biologique que le psychanalyste ou l'homéopathe agit pour remettre une harmonie profonde entre le sensible et le spirituel. Ça, il faut le savoir. Ça fait partie de la philosophie du vivant. Ça fait partie de la philosophie de l'imaginaire. Je voudrais beaucoup qu'entre vous, il y ait quelqu'un qui travaille l'imaginaire. C'est passionnant. Travailler l'imaginaire. Et c'est pas commun, mais c'est très intéressant. C'est Aristote le premier qui a fait un traité d'imagination. Il y a très peu de traités d'imagination. Il y a laisser passer devant. Donc là, il y a tout un domaine, vous voyez, extrêmement intéressant, moi, du philosophie du vivant. L'image, l'étude de l'image, l'étude de la connaissance symbolique qui est à base d'image. Puis nous entrons ensuite, troisième dimension, la vie intellectuelle, spirituelle. La vie intellectuelle, spirituelle est avant tout la vie de notre intelligence et la vie de notre volonté. Notre âme est spirituelle, et donc il y a en nous une vie spirituelle, mais cette vie spirituelle a pu être énormément diminuée par l'imaginaire. On n'a pas fait suffisamment attention, on s'est laissé prendre et emporter par l'imaginaire. Alors l'imaginaire peut très très bien paralyser notre vie intellectuelle et empêcher notre vie intellectuelle de se développer pleinement. C'est le grand obstacle, vous savez. Dans notre monde aujourd'hui, c'est le grand obstacle. Faut bien dire ça. Parce que tout nous porte à l'imaginaire. Alors, il faut comprendre que notre vie intellectuelle implique différents niveaux. Notre vie intellectuelle est liée, alors c'est là où il faut voir les diverses alliances de notre vie intellectuelle. Notre vie intellectuelle, c'est la vie du nous. C'est pas nous, hein, c'est le nous. Premier niveau, l'expérience. L'expérience avec nos sens externes. J'en ai déjà parlé à propos du point de départ de la philosophie. C'est l'intelligence qui pose le chemin d'existence.
Intellectuelle, c'est imaginaire.
externe est très favorable pour les intuitions, pour les inspirations. Toute inspiration implique une intuition. Et il faut bien mettre la différence entre l'expérience, le jugement d'existence et l'intuition. L'intuition porte toujours sur une relation. Le jugement d'existence porte sur l'existé. Or, la relation, vous savez, est ou réelle ou de raison. Donc, dans les intuitions, je ne peux jamais savoir si c'est quelque chose de réel ou tout simplement quelque chose de possible. C'est propre de l'intuition. Rationnel.